une histoire particulière. Le réseau Villes et Villages des Justes de France réunit les communes ayant nommé un lieu de mémoire pour perpétuer le souvenir et les valeurs portées par les Justes parmi les nations. Ces femmes et ces hommes qui, avec courage et au péril de leur vie, ont, au cours de la Seconde Guerre mondiale, sauvé des Juifs en s'opposant aux persécutions antisémites nazies et à l'État français de Vichy. À ce jour, 438 communes de France ont créé de tels lieux. Parmi elles, le Chambon-sur-Lignon et Dieu le fit, où nous vous emmenons aujourd'hui.
Monsieur Glaise, là on est donc à la mairie de Dieu le fit et on a une plaque devant nous commémorative avec le nom des Justes à Dieu le fit. Alors on voit notamment le nom de Marguerite Soubéran.
Oui, bien sûr. Donc c'est cette plaque, je peux vous en faire la lecture, à la mémoire des Dieulefitois qui se sont levés pour défendre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité pendant l'occupation nazie. En reconnaissance, l'État d'Israël et Yad Vashem ont décerné le titre de juste parmi les nations à Elie Abel, Emmeline Abel, Madeleine Arsens, Paul Arsens, Jeanne Barnier, Catherine Kraft, l'abbé Georges Magnier, Henri Morin, Simone Monnier et Marguerite Soubéran. Voilà. Donc il y a deux citations aussi. « Quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier », c'est un extrait du Tamul, et « qu'il soit des phares pour les jeunes générations ». Voilà.
Dieu le fit, résistance au village. Épisode 1, silence et désobéissance.
Ce n'est pas parce que je suis protestante que j'ai fait de la résistance. Au départ, je pense que je me suis engagée dans la résistance parce que, immédiatement, j'ai eu le refus d'accepter, le refus de subir ce que l'on voyait. Vous avez refusé la défaite, refusé l'injustice, et puis refusé la position que le gouvernement français et les Allemands faisait à certains hommes et à certaines femmes qui tombaient sous des lois parfaitement injustes. Et c'est plutôt un refus de subir quelque chose.
On entendait la voix de Jeanne Barnier, une des grandes figures de la résistance à Dieu le fit. Secrétaire de mairie sous l'occupation ennemie, elle a reçu la médaille des Justes avec Marguerite Soubéran et 5 autres Dieulefitois. Pendant les 4 années les plus sombres de notre histoire, cette petite cité au sud de la Drôme, que l'on nomme aujourd'hui le pays de Dieu le fit, a su désobéir et dire non aux lois de la France de Vichy et le faire sans armes. Des centaines de personnes pourchassées par les Allemands, juives et non-juives, y ont trouvé refuge et pas une seule arrestation ni déportation n'est à déplorer. Parmi elles, des anonymes, mais aussi des peintres, des poètes, des artistes, des philosophes. Dans son discours de réception à l'Académie française en 1968, le poète Pierre-Emmanuel disait « À Dieu le fit, nul n'est étranger ». La résistance à l'échelle d'une population, d'un village, m'interroge. Pourquoi ici, à Dieu le fit, s'opposer aux actes barbares allait de soi? Bernard Delpal, historien et habitant lui aussi le canton depuis quelques années, a recensé tous les actes de résistance qui ont conduit les habitants à accueillir les réfugiés. Un sauvetage qui trouve son origine, pour lui, dans une ancienne tradition de solidarité.
À l'université, j'enseignais l'histoire et la sociologie religieuse du monde contemporain. Donc évidemment, ici, j'ai été intéressé par les aspects religieux et culturels de la population. En termes démographiques, catholiques et protestants, c'est 50-50. Hein. Mais évidemment, en termes économiques et culturels, il y a un fort déséquilibre en faveur du monde protestant. Exemple, par exemple, jusqu'aux années 1945, jusqu'à l'après-Deuxième Guerre mondiale, aucun catholique n'a été élu maire, même quand on passe au suffrage universel. Les catholiques eux-mêmes choisissent la compétence, la notabilité protestante. Elle inspire confiance, qu'il s'agisse du monde des affaires, qu'il s'agisse de l'administration républicaine. Dans tous les cas, on n'hésite pas ici à voter pour le monde protestant.
François Morin, habitant de Dieulefi, Archivina, 1988.
Dieulefi était une ville fort, pas industrielle, mais où l'activité commerciale et les petits fabricants étaient très nombreux, que ce soit pour la laine, la soie, le cuir et la poterie. Dieulefi vivait surtout de cette activité beaucoup plus que de l'agriculture. Et alors tous ces gens-là, dans le fond, étaient liés par leurs intérêts. Et donc il existait une bonne entente, bien qu'on parle beaucoup des luttes entre protestants et catholiques. Je veux dire qu'elles ont eu lieu au moment des guerres de religion, mais après, c'était des gens intelligents, ils se sont aperçus que pour leurs affaires, il valait mieux s'entendre que de se battre. Et donc, la révocation de l'édit de Nantes n'a pas été catastrophique à Dieulefi. Bien sûr, pas mal de protestants entretenaient des relations avec la Suisse. Par Genève, toute une quantité de marchandises, la soie, de la laine, les tissus de laine partaient en Allemagne, partaient dans l'Europe entière, et donc... Les Dieulefitois étaient amenés à aller en Suisse et donc ils ont acquis un certain esprit, peut-être de liberté, de plus de justice. C'est une tradition chez les protestants de protéger. Les protestants ayant été eux-mêmes persécutés, ayant été une minorité, ils ont toujours soutenu d'autres minorités.
Ça remonte probablement aux guerres de religion. Il y a une allergie des Dieulefitois aux instances officielles, qu'elles soient religieuses, militaires, politiques, quand c'est pas du bon côté du sentiment général des Dieulefitois. Et une des allergies en particulier, c'est une allergie face à l'interdiction des mariages mixtes, et on passe outre ici. Le débouché normal de cette bonne entente entre catholiques et protestants, voire même de cette complicité, quelquefois, c'est la laïcité. Et puis, il y a également un fort attachement républicain qui est peut-être plus fort, plus précoce chez les protestants, mais qui est passé dans le monde catholique.
Et ils ont frappé, malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde. Le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre. Ce ne sont pas seulement les nations qui font la guerre, ce sont les peuples qui subissent la guerre, tels les peuples français et britanniques. Ce sont les peuples qui perdent leurs enfants, leur foyer, leur travail, l'espérance en l'avenir et en la paix de leurs vieux jours. La guerre ne consiste plus en places prises, en victoire ou en défaite. Mais la guerre, ça veut dire que des gens moyens qui travaillent au champ, à l'usine, au bureau, qui vont parfois au théâtre, s'enfuient affamés, pris de panique, sans ressources et sans amis. Parce que dans un monde égoïste, ils étaient seuls.
On est quelques historiens à regretter qu'on n'ait pas assez travaillé, en tout cas pas assez enseigné la fameuse débâcle de 1940, cet exode, pour simplifier, un Français sur quatre a tout quitté. Pour fuir vers le sud, vers la frontière des Pyrénées, 10 millions de personnes, dans des conditions invraisemblables, extrêmement douloureuses. Puis alors après, les réfugiés, par exemple des réfugiés juifs qui fuient Paris, quelques familles ont quitté Paris en novembre et décembre 1939, par crainte des bombardements. Hein. On avait le souvenir, on disait à Paris qu'attention, les Allemands vont bombarder Paris, il faut mettre les enfants à l'abri. Et quelques familles sont arrivées, juives et non-juives d'ailleurs, pour fuir la capitale avec le sentiment que, contre les bombardements, il n'y avait qu'une solution, c'était de s'installer à la campagne. Et puis alors après, évidemment, le flot des réfugiés s'est maintenu du nord vers le sud, de la zone occupée vers la zone dite non-occupée. Et chaque mois, chaque année... Des contingents se sont installés ici, à Dieulefi même et dans les villages périphériques. Alors, ce ne sont pas des chiffres astronomiques, hein, mais quand même, on a une évaluation assez fine qui nous est donnée dans une émission de France Culture de 1985, où est interviewée Jeanne Barnier, et à qui on pose la question « Combien y avait-il de réfugiés au début de la guerre ?» Et elle cite le chiffre de 1400 personnes en 1941 pour une population de un peu moins de 3000 habitants. C'est considérable.
Jacques Semelin, historien et directeur de recherche au CNRS.
Beaucoup de juifs, français ou étrangers, quand ils en ont les moyens, quand ils savent où aller, ils vont vers la zone sud. Et à ce moment-là, ils vont, pour beaucoup d'entre eux, aller à la campagne. Pour moi, une des formules les plus rapides pour exprimer ça, c'est « année noire, année verte ». Et quand les Allemands arrivent à partir du 11 novembre 1942 en zone libre, quand elles l'occupent, ils vont encore essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire vraiment là où ils pensent qu'il n'y aura jamais d'Allemands. Donc, ils vont arriver dans des coins paumés.
Voilà telle qu'elle était à l'époque du maquis, là, de la résistance.
Donc là, c'était la maison. Comment s'appelait cette famille qui vivait ici?
Nunes.
La famille Nunes.
N-U-N-E-Z ou S, je ne sais pas.
La famille Nunes, qui était donc une famille juive.
Oui.
Et qui était cachée ici, dans cette maison. En fait, c'est une très grande maison. Et en fin de compte, c'est une petite partie que vous aviez réservée pour cette famille.
Voilà, oui.
On ne peut pas rentrer.
Si, mais on va faire le tour.
Ah, on attend monsieur Delpal alors.
Le monsieur, là, était peureux. Hein.
Il était peureux?
Ah oui, le temps qu'ils sont restés à Dieulefille, je l'ai vu trois fois, moi, le monsieur. Il partait bon matin, il passait derrière, il allait se cacher dans une ferme à Combs, là, et il rentrait le soir.
C'est sa femme, alors, qui était souvent ici, et lui...
Sa dame, elle restait, là, oui.
Ouais.
Avec les deux filles, aussi. Bon, vous voulez visiter, alors?
Oui.
Alors, on va passer de là-bas, parce que c'est fermé, d'ici.
L'antisémitisme, il est dans la propagande. Dans la propagande de Vichy, dans la propagande des nazis. Il est dans les villes.
Je pense premier.
Il est aussi à la campagne, mais peut-être plus par ce que j'appellerais l'anti-judaïsme, c'est-à-dire qu'à la messe, on veut dire que les juifs, ils ont tué le Christ, etc. Cependant, quand ces paysans rencontrent des étrangers, ils ne savent même pas qu'ils sont juifs. Parfois, ils savent. Ça ne ressemble pas du tout aux caricatures qu'ils ont eues, si vous voulez, avec les pieds crochus, avec une petite queue dans le dos. C'est Serge Klarsfeld qui le dit quand il arrive dans la Haute-Loire, enfin, avec sa sœur. Donc, si vous voulez, ça ne correspond pas au cliché. Et là, vous allez avoir toutes sortes de solidarités pour les travaux agricoles, évidemment, parce qu'il manque d'hommes. Les femmes se mettent à faire des habits, et puis on va les payer en leur donnant un poulet. Parfois, il y a des dénonciations. C'est cette France un peu mosaïque, compliquée, que j'essaye de mettre en lumière dans ces travaux, sans jamais dire que c'est rose, quoi, parce qu'il y a des gens qui se font arrêter, etc. Donc, voilà.
Oui, alors c'est tout transformé, là, maintenant. Hein. Il y avait une cloison ici, avec une porte là, qui communiquait entre les deux pièces.
Vous voulez dire que la famille Plumel était d'un côté et la famille Nunes de l'autre côté de cette cloison?
Là, c'était la séparation.
Là, c'était la séparation. D'accord.
Okay. Il y avait à cet endroit une trappe qui allait au grenier. Là. Et le monsieur couchait en haut. Il passait par là et il couchait au grenier. Là, hein. Il avait peur. Hein. Il n'était pas tranquille à l'époque. Hein.
Et vous, monsieur Delpal, vous aviez déjà visité la maison?
Non, parce que quand la première fois que je suis rentré ici, les transformations avaient déjà été faites. André nous disait qu'ils avaient mis au point un système qui leur permettait de s'échapper.
Passer par une petite trappe qu'il y avait derrière, ils se sauvaient de là.
Ils montaient dans les garennes?
Oui, ils montaient dans les garennes et ils allaient à Combs, dans une ferme, se cacher.
Ah, d'accord.
Ils passaient la journée, le soir, ils rentraient, quoi.
Vous avez été marqué par cette angoisse de ce monsieur?
Ah oui, c'était gentil ces gens. Hein.
Les Plumel sont une vieille famille catholique de Dieulefille.
Ah oui, c'est vieux ça. Hein.
C'est vieux, hein, ça remonte aux Plumel.
André, il est remonté en 1717, je crois. Toutes les fois qu'il y avait un Plumel, c'était des potiers.
Là, vous avez presque une image idéale. Vieille famille catholique, vieille famille de potiers, Dieu le fit toi, et qui cache des réfugiés juifs pendant la guerre. Le portrait est parfait. Et alors, on évoquait l'occupation. Vous n'avez jamais vu d'Allemand, hein, Dieu le fit.
Il passait le sidecar des fois.
Ah, il passait un sidecar.
Ah oui, toutes ces montagnes, on nous ont protégés, là. Hein.
Ah, c'est les montagnes.
Puis les gens se soutenaient bien quand même, là.
Vous avez des maires qui accueillent. Vous avez des secrétaires de mairie, comme à Dieu le fit, avec Jeanne Barnier. Vous avez des instituteurs, j'en ai parlé ce matin, qui vont être particulièrement attentifs aux enfants juifs étrangers qu'ils ont dans leur classe. Il y a deux pays dans l'Europe nazie où les enfants juifs ont pu continuer à aller à l'école publique. C'est la France et le Danemark. Alors là, quand j'ai entendu ça, j'en ai renversé mon café. Je ne savais pas. Et en réalité, quand vous prenez les témoignages, c'était comme le nez au milieu de la figure, si vous voulez. Quand vous prenez le témoignage de ces juifs adultes, souvent, ils rendent hommage à leur instituteur. Et donc, ici, vous touchez à l'héritage républicain.
Si tu penses au temps d'une année, plante du blé. Si tu penses au temps d'une vie, construis des maisons. Si tu penses à l'avenir, élève des enfants, dit Marguerite Soubéran. Elle, elle a fait les trois choses en même temps.
On vient filmer.
Filmer quoi ?
On vient filmer la directrice de l'internat.
La directrice de Beauvallon, tante Marguerite. Une vie entière consacrée aux enfants.
José Varela et François Moreuil ont réalisé en 1973 un film sur une des fondatrices de l'école de Beauvallon, Marguerite Soubéran. C'est elle qui tirait les ficelles de la résistance à Dieu le fit. Elle a créé une communauté ouverte aux réfugiés, adultes et enfants. Elle a résisté et tenu bon sans jamais renoncer aux fondamentaux de son école.
Ils sont pas tous épatants, les adultes, quand même. C'est-à-dire que les enfants, prends les enfants jusqu'à 5 ou 6 ans, c'est tous les enfants épatants, ils sont tous épatants, ces enfants-là. Ils sont merveilleux. Quand on les voit, on dirait qu'on doit avoir une société fantastique. Et puis on n'a pas une société fantastique du tout, même. Mais il faut en changer, certainement. Mais enfin. Alors on s'est dit, il n'y a rien à faire, il faut aider les enfants.
Alors ma grand-mère, Marguerite Soubéran, moi j'en ai le souvenir d'une personne exceptionnelle.
Muriel Soubéran.
À la fois très humaine, très proche et en même temps un peu lointaine parce qu'elle avait une telle force, une telle énergie, un tel désir de changer les choses, d'aller de l'avant tout le temps, que ça mettait un peu une distance entre elle et nous, enfants. Elle a fondé l'école de Beauvallon en 1929 et l'école a commencé comme une petite classe avec quelques enfants et elle disait toujours « Je sais très bien la date de la fondation de mon école, c'est 1929 » parce que c'est l'année où j'ai adopté mon fils, Dadou, et pour moi, c'est la marque du moment où cette école a commencé.
Quand j'avais 10 ans, je ne sais pas pourquoi, j'avais lu un livre qui m'avait parlé des enfants abandonnés, des enfants malheureux, et j'en avais été absolument bouleversée. Je m'étais dit, mais il n'y a rien à faire, moi je n'aurai pas d'enfants, j'adopterai des enfants et je m'occuperai d'enfants. Et au fond, c'est ce que j'ai fait.
Les deux fondatrices sont Marguerite Soubéran et Catherine Kraft. Le projet est né pendant le séjour de Marguerite Soubéran à Genève, dans l'Institut Jean-Jacques Rousseau. Elle prépare son diplôme, elle rencontre Catherine Kraft, qui, elle, fait partie de l'administration universitaire, et entre les deux femmes, s'établit à la fois un projet de vie et un projet d'école. Alors, quant à l'homosexualité, attention de ne pas faire d'anachronisme. Ces deux femmes ne sont pas des militantes homosexuelles. Elles sont homosexuelles, avec discrétion, et d'autant plus qu'elles ont toutes les deux le même projet d'adoption d'enfants. Vous voyez, imaginez, hein, adopter un enfant en 1932 ou 1933, faire des démarches pour que cet enfant soit légalement reconnu comme adopté, dans le contexte moral de l'époque, c'est extrêmement difficile.
Il faut quand même avoir quelques connaissances, quand même. Et mes connaissances d'infirmière ne m'apportaient pas beaucoup. Alors je me suis dit, je vais aller à l'Institut Jean-Jacques Rousseau, à Genève. Et là, j'ai passé 2 ans. Alors là, c'est la chance de ma vie, n'est-ce pas ? Parce que j'ai eu la chance d'avoir Taparet, d'avoir Beauvais, d'avoir Piaget, d'avoir Ferrière. En fait, tous les grands noms de la psychologie de l'enfant étaient là. Et nous vivions avec eux, comme nous voulons vivre ici, d'ailleurs. On vivait avec eux, on les voyait, on vivait avec eux, on allait faire des promenades avec eux, on allait faire des courses avec eux, on mangeait avec eux, c'était pas du tout comme des professeurs et des élèves, nous étions comme des amis. Ce que j'ai appris, ce que j'ai toujours, c'est que j'ai appris à avoir une confiance immense en l'homme.
Les valeurs de l'école de Beauvallon, Marguerite Soubéran les a puisées dans deux sources principales. Une, son éducation dans une famille protestante très généreuse, très ouverte, très tolérante. D'un autre côté, elle avait le souhait de créer une maison d'enfants pour les enfants qui étaient en difficulté. Elle est partie à l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève. Et c'était là une école où et enseignants et élèves et étudiants vivaient ensemble, partageaient tout. Et ça a été un des fondements du fonctionnement de son école, c'est-à-dire la démocratie à tous les étages. Hein, c'est-à-dire que la voix d'un enfant compte autant que celle d'un adulte.
Au moment de l'émission de télévision, en 1972, je crois me souvenir, au moment de son interview filmée, on lui dit « Mais comment vous avez réussi à faire fonctionner cette école et à sauver autant de personnes ?» Et elle répond « Mais vous savez, au fond, une école, c'était très pratique pour accueillir des enfants réfugiés. » Elle a vu le côté pratique de son institution pour résister, au fond, à la persécution. C'est ce qui la rapproche, bien qu'elle ait des itinéraires assez différents de Jeanne Barnier. Elles ne sont pas de la même génération, mais elles ont au moins un point commun, ces deux femmes. C'est qu'elles vivent en suivant des principes qui sont très exigeants. On ne transige pas avec ces principes-là. Et pour que ces principes soient respectés, il ne faut pas hésiter au besoin à désobéir.
Archivina, 1988.
Jeanne Barnier.
Début 41, j'ai vu arriver à la mairie de Dieulefit Marguerite Soubéran, qui m'a dit « Maintenant, il y a de gros problèmes. J'ai tout un tas de gens qu'il faut planquer. Moi, je vais me débrouiller pour les caser à quelque part. Et toi, tu vas me faire de fausses cartes d'identité pour ces gens. » J'avais peur. Je ne savais pas faire, il faut au papier. Je pense qu'il faut un bout de temps pour accepter et concilier la légalité d'une administration et l'illégalité. Et qu'on l'accepte et qu'on le fait, quand on a réalisé que c'est à cause de cette illégalité-là que d'autres survivront, mais que jusque-là, ce n'est pas évident du tout. Et j'étais une jeune protestante très pratiquante et très engagée. Je suis allée trouver par exemple le pasteur Ébrard qui était pasteur à Dieulefit en lui disant « Voilà, j'ai commencé à faire, qu'est-ce que vous en pensez ?» Il m'a dit « Tu fais selon ce que tu penses », mais il m'a averti avec beaucoup de gravité des dangers que je pouvais courir.
Le nouveau maire qui est en place au printemps 1941, le colonel Pizot, il est vichiste. C'est Vichy qui le nomme. Bon, très bien. Mais il y a Jeanne Barnier dans sa mairie, qui est secrétaire de mairie, qui est déjà en poste depuis le début parce que celui qui s'occupait de la secrétaire de mairie, il est prisonnier de guerre. Et ben, il va découvrir que Jeanne Barnier fait des faux papiers. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien.
Et il est certain, nous avons de multiples preuves, il est certain qu'il est parfaitement au courant de ce que fait sa secrétaire de mairie en termes de fausses cartes d'identité nationale, faux carnets d'alimentation et feuilles d'alimentation qu'il fallait renouveler tous les mois. Il est parfaitement informé. Et il est si bien informé qu'il veut la remercier en lui donnant une promotion en 1943. Aux yeux du maire, au fond, elle fait le travail que lui ne peut pas faire en tant que maire.
Et alors un jour, il appelle sa secrétaire et il dit « Jeannette, vous avez besoin de vacances. »
Fille du colonel Pizot.
« Mais monsieur, je vais très bien. Jeannette, vous avez besoin de vacances. » Vous allez chez vous, vous faites un petit baluchon, et puis vous avez bien des amis vers Bordeaux ou des parents, et vous allez séjourner. Et puis, je vous ferai signe quand ça suffira. » Alors, elle a obéi. Et ça a duré une huitaine, dizaine de jours. Bon, et ben mon père savait que les Allemands pouvaient venir et il ne voulait pas qu'elle soit ramassée, étant donné qu'elle faisait toutes ses cartes, ses fausses cartes d'alimentation, parce qu'il était au courant de tout, papa. Les gens disent, ils ne savaient pas, alors elle faisait toutes ses cartes, etc. Rien du tout.
Mais il en parlait de ça à la maison, quand même ?
Non, on a su après. Ah non, on a su après. On a su après.
En août 1942, bien sûr, on sait, il y a la rafle du 26 août 1942, qui est la plus grande rafle organisée en France, d'ailleurs. Donc, qui concerne toute la zone libre, puisqu'on est toujours en zone libre. C'est Vichy qui l'organise à la demande des nazis. Or, il y a trois enfants de Dieu le Fils qui sont arrêtés et qui vont être transférés, comme bien d'autres, au camp de Vénissieux dans la région lyonnaise. Et évidemment, la direction, c'est Drancy. Or, Marguerite Soubéran a la force extraordinaire, pour moi, de dire « c'est pas possible, j'y vais ». Je veux les récupérer. Elle prend le train, elle va arriver à Vénissieux, et ça va être un moment absolument pathétique, parce que le seul moyen d'extraire les enfants du camp, c'est d'obtenir des parents la déchéance de leur parentalité. Donc, il faut que les parents acceptent de signer un document comme quoi les enfants seront pris en charge par l'amitié chrétienne qui dépend du cardinal Gerlier. Donc, c'est un déchirement terrible pour ces familles. Certains n'ont pas pu le faire. Il y a aussi des suicides dans ce camp. Et finalement, 108 enfants vont être libérés, dont ceux qui venaient de Dieu le Fils. Voilà, pour ce qui concerne Dieu le Fils, c'est ça qui s'est passé et c'est une manière aussi de rendre vraiment un hommage, pour moi, sans borne, en fait, à Marguerite Soubéran qui a refusé la fatalité, quoi. Elle est venue chercher ses enfants au camp de Vénissieux. C'est inimaginable.
C'était Dieu le Fit. Résistance au village, silence et désobéissance. Avec Bernard Delpal et Jacques Semelin, historiens, Muriel Soubéran, petite fille de Marguerite Soubéran, Monsieur Plumel, habitant de Dieu le Fit, prise de son, Christophe Papon et Chantal Novello, Archivina, Christelle Rousseau, coordination, Christine Bernard, attachée de production, Sylvia Favre, un documentaire de Lénora Krief réalisé par François Teste.